RFI, 7h30 à Paris, 6h30 en temps universel.
RFI Matin.
Le journal avec Xavier Besson.
Bonjour Julien, bonjour à tous. À la une ce matin, la Centrafrique, Bangui, où cela fait bientôt 10 mois que le chercheur belgo-portugais Joseph Figueira est emprisonné, accusé de complot. Ses proches demandent à la Belgique et au Portugal, mais aussi à l'Union Européenne, d'en faire plus pour obtenir sa libération. Dans ce journal également, on tente de décrypter ce que fait le M23 dans l'est de la RDC. Les rebelles affirment se retirer de Walikale, cette localité dont ils ont pris le contrôle cette semaine. Le Cameroun est l'opposant Maurice Kamto qui maintient qu'il a bien l'intention d'être candidat à la prochaine élection présidentielle. Reportage à Abidjan où les arbitres ivoiriens de football se familiarisent avec l'assistance vidéo. Et notre dossier ce matin à Madagascar, comment les jeunes parlent-ils, notamment à Antananarive où nombreux sont les mots de français, la langue de l'enseignement, qui viennent se glisser dans les bouches des locuteurs du malgache. Les mois passent et les proches de Joseph Figueira s'impatientent en Centrafrique. Les choses n'évoluent pas ou peu pour ce chercheur belgo-portugais, spécialiste des peules et de la transhumance et qui est en prison depuis maintenant 10 mois, accusé notamment de complot. Certes, cette semaine, il a reçu la visite du nouvel ambassadeur belge installé au Cameroun et venu présenter des lettres de créance au président centrafricain. Mais les proches du chercheur emprisonné estiment que les Belges, mais aussi les Portugais et plus globalement les Européens, n'en font pas assez pour obtenir sa libération. François Mazet.
C'est en même temps que 5 autres ambassadeurs qu'Alain Leroy a remis ses lettres de créance mardi au président Touadéra. L'ambassadeur de Belgique, avec résidence à Yaoundé, s'est entretenu avec le ministre de la Justice, Arnaud Djoubaïa-Bazaine. Il a également rendu visite le lendemain à Joseph Figueira en prison et échangé avec ses avocats. Si le ministère belge des Affaires étrangères refuse de commenter la visite et les entretiens diplomatiques, un proche du dossier assure que le garde des Sceaux a renvoyé toute évolution de la situation à la prochaine session de la cour criminelle de Bangui, dont la date n'est pas encore connue. Mais les avocats de Joseph Figueira veulent un dénouement avant le procès. Ils ont déposé pour cela une demande de non-lieu en raison, selon eux, de la vacuité de la procédure. Ils s'étonnent par exemple que leur client n'ait été entendu que 2 fois alors qu'il fait l'objet de 6 lourds chefs d'inculpation. Un des interlocuteurs du nouvel ambassadeur l'a trouvé concerné et déterminé. Les proches de Joseph Figueira demandent à la Belgique et au Portugal d'être plus actifs. Ils s'étonnent du silence de l'Union européenne, bailleur important de la Centrafrique. D'autant que Joseph Figueira a été victime de violences physiques lors de son arrestation par des mercenaires russes de Wagner à Zemio, dans le sud-est du pays, où il conduisait une mission de conseil pour une ONG américaine.
François Mazet, Bangui, où ont pris la parole hier également les avocats des frères de l'ancien Premier ministre Henri-Marie Dondra, Christian et Eusebe Dondra, arrêtés cette semaine sur des soupçons de projet d'empoisonner le président Faustin Archange Touadéra. Depuis, leurs avocats n'ont pas pu les voir, des avocats qui demandent par ailleurs à avoir accès aussi au dossier pénal pour tenter de comprendre exactement ce qui leur est reproché. Que faut-il comprendre en République démocratique du Congo après l'annonce hier après-midi des rebelles du M23, ce groupe armé soutenu par le Rwanda et qui occupe aujourd'hui une bonne partie des provinces du Nord et du Sud Kivu, des rebelles qui assurent qu'ils vont se retirer de Walikale Centre, localité dont ils se sont emparés cette semaine. Ils disent vouloir, je cite, favoriser un climat propice au dialogue à Kinshasa. Une telle annonce laisse sceptique et ouvre la porte, Patient Ligodi, à plusieurs hypothèses.
La première hypothèse, c'est l'ouverture d'une nouvelle fenêtre de dialogue. C'est ce que soutiennent certaines sources proches de la FCM23. Un sommet virtuel entre l'UAC et la SADC est annoncé pour la semaine prochaine. Ce serait une occasion de faire avancer la junta régionale sur le cessez-le-feu et un éventuel dialogue politique. De son côté, Thérèse Kayikwamba, chef de la diplomatie congolaise, a affirmé hier que le gouvernement est disposé à discuter. C'est d'ailleurs dans cette perspective qu'une délégation envoyée par Kinshasa s'est rendue en début de semaine à Luanda sur l'invitation de la médiation angolaise. Concernant l'annonce de retrait de Walikale Centre, Thérèse Kayikwamba a déclaré hier que le gouvernement congolais attend de voir si cette déclaration va se traduire en acte concret. La deuxième hypothèse, c'est une manœuvre stratégique pour gagner du temps. C'est l'option défendue par des sources de l'armée contactées par RFI. Dans les rangs des forces armées congolaises, on reste sceptique. Des sources disent ne pas croire au discours de l'AFC-M23. Elles y voient une manœuvre destinée à gagner du temps avant peut-être une tentative de progression vers Kisangani, à environ 400 km de Walikale Centre.
Patient Ligodi qui évoquait à l'instant la chef de la diplomatie congolaise, Thérèse Kayekwamba. Elle s'est exprimée hier. Elle est revenue notamment sur la nouvelle position des autorités de Kinshasa, désormais favorable à un dialogue avec le M23. Alors que longtemps, le président Félix Tshisekedi a fait de discussions directes avec les rebelles une ligne rouge. Thérèse Kayekwamba qui parle désormais d'un choix qui s'adapte à la réalité sur le terrain.
Nous sommes dans une logique justement de l'évolution du conflit et la République démocratique du Congo, à ce moment précis, a estimé qu'il était plus opportun pour nous et surtout pour nos populations d'engager cette discussion directe avec le M23 si cela aurait pour répercussion justement une cessation plus vite possible aux hostilités et surtout aux souffrances à nos populations civiles. Malgré cette évolution, la priorité a toujours été la même et surtout pour le président de la République, c'est de préserver les vies des Congolais et des Congolaises et c'est dans cette logique aussi que nous avons donné notre feu vert pour qu'il y ait un engagement au niveau des équipes qui ont été envoyées pour participer à une rencontre directe avec le M23. Cela ne veut pas dire que certains principes ne demeurent pas et ne restent pas inébranlables. La rencontre de Doha n'est pas venue se supplanter aux efforts qui étaient en cours, mais plutôt s'inscrire dans une logique d'accompagnement à ces efforts. La voie des solutions africaines, nous continuons à la privilégier. Évidemment que nous ne voulons pas que sous le prétexte d'une solution africaine, des questions parfois épineuses où des vérités ne soient pas dites.
La ministre des Affaires étrangères de RDC au micro de Pascal Moulégua. Autre conflit en cours en ce moment, la guerre au Soudan. À Khartoum, l'armée nationale continue de gagner du terrain face au FSR du général Emeti. Armée nationale qui, hier, a assuré avoir repris le contrôle, entre autres, de la banque centrale et du siège des services de renseignement, après avoir reconquis la veille le palais présidentiel. Dans le même temps, de violents combats ont aussi été signalés hier au Darfour, précisément dans la ville d'Almala, où d'après le comité local de résistance, les FSR ont tué au moins 45 civils. Et au Soudan du Sud, c'est par crainte d'un conflit à grande échelle que l'Allemagne annonce fermer provisoirement son ambassade à Djouba. La chef de la diplomatie allemande estime que le pays est à nouveau, je cite, au bord de la guerre civile. Ces dernières semaines, des combats ont eu lieu, notamment autour de la ville de Nassir, près de la frontière avec l'Éthiopie. Combats entre l'armée sud-soudanaise et une milice, la White Army, présentée comme proche du vice-président et opposant Riek Machar. RFI 7h37 à Yaoundé, au Cameroun, où l'opposant Maurice Kamto met les choses au clair. Oui, il a bien l'intention d'être candidat à l'élection présidentielle prévue en octobre. Et s'il a besoin de le répéter, c'est que sa candidature fait débat. Certains au sein de la majorité et du parti présidentiel estiment qu'après le boycott des dernières élections législatives, il ne serait plus légitime. Le MRC, son parti, parle de complot politique et judiciaire. À Yaoundé, Polycarpe Essomba.
Le MRC ne laissera pas le RDPC exclure son candidat de la course à la prochaine élection présidentielle, écrit en substance Maurice Kamto dans cette déclaration, avant sur un ton menaçant de dire que ceux qui ont pris cette décision illégale y renoncent, car avance-t-il, cela ne se fera pas sans conséquences graves. Pour le candidat investi par le MRC, l'homme derrière le complot en préparation n'est nul autre que le ministre de l'administration territoriale, qui l'accuse de s'être arrogé le droit de décider de qui sera candidat à l'élection présidentielle ou non. La réponse à cette sortie de Maurice Kamto est venue de là où on s'en attendait le moins, sous la plume notamment de Jean de Dieu Momo, ministre délégué auprès du ministre de la Justice. Ce dernier qui occupe au gouvernement le poste qu'occupait avant lui Maurice Kamto et dont le parti Le PADEC fait partie de la majorité présidentielle, s'est employé à démonter tous les arguments de droit convoqués par Maurice Kamto en soutien à sa candidature. Pour ce dernier, seules deux hypothèses s'offrent à Maurice Kamto, soit comme candidat indépendant ou alors qu'il soit investi par un tout autre parti que le MRC, disposant ce parti-là des élus. Tout autre scénario serait d'après lui la préparation d'une insurrection populaire pour prendre le pouvoir par la rue, conclut-il. Pour le Carpe Somba Yaoundé, RFI.
Notre dossier ce matin nous emmène à Antananarive. Comment parle-t-on à Madagascar? On se pose la question en ce dernier jour de la semaine de la francophonie sur la grande île où les jeunes qui vont à l'école en français ne parlent plus exactement la même langue malgache pure, entre guillemets, que leurs aïeux. Reportage de Pauline Le Troquier à Ancas, la grande université publique d'Antananarive.
Sur l'esplanade du campus, un groupe d'étudiants entame une partie de Fanourne, un jeu de stratégie typique du pays. Au milieu de la conversation entamée naturellement en malgache, quelques mots de français. Ce langage contemporain, né et diffusé en ville, n'est ni accessible à tous, ni du goût des aînés. Nambine, étudiant de 24 ans.
Ça peut créer des conflits. Par exemple, quand je place des mots en français, il arrive que ma mère se mette en colère car elle ne comprend pas ce que je dis. Et en plus, elle dit que je suis vantard.
On nous prend pour des idiots.
Pour fille, 19 ans, la maîtrise du français est un marqueur social important, source de pression pour sa génération.
Ils se prennent pour des leaders quand ils parlent français et quand on parle malgache, ils disent qu'ils ne sortent pas de leur zone de communauté et tout ça.
Le français résonne pourtant peu, en dehors des salles de classe, dans l'intimité des foyers. Cette place unique qui lui est réservée à l'école pose question au professeur Jeannot-Fils Ranaï-Vousson. Pour cet enseignant de la filière malgache à Ankat, le système crée des déracinés linguistiques.
On enseigne dans une langue que les gens ne maîtrisent plus. Donc c'est une question d'efficacité. Que ce soit dans les efforts de développement, dans l'enseignement, il faut qu'on se parle avec la langue que tout le monde comprend, le malgache en fait.
Au-delà d'un impératif fonctionnel, une élite intellectuelle tananarivienne milite pour redonner toute sa place au malgache, qui reste selon elle un marqueur de souveraineté nationale. Pauline Troquier, Antananarive, RFI.
Des évolutions qui ne plaisent donc pas forcément à tout le monde, mais dont il ne faudrait pas s'inquiéter. Évolution naturelle des langues, cela peut même être une force, estime Tani Mohamed Swahili, le ministre français en charge de la francophonie.
Le français coexiste d'ores et déjà parfaitement avec le malgache. Par exemple, dans les journaux télévisés à Madagascar, il y a souvent des traductions du malgache vers le français, du français vers le malgache. Et ça, c'est vraiment un enrichissement. Et il faut surtout pas couper avec ça. Au contraire, les deux langues se renforcent et s'enrichissent les unes les autres. Le français, au sein de l'espace francophone, n'est en aucune manière en concurrence avec les autres langues. Et ici, en l'occurrence, le malgache. La francophonie promeut le multilinguisme. Ça fait partie des valeurs qui font la force de la francophonie.
C'était le ministre français chargé de la francophonie. Enfin, les sports, l'actualité sportive ce matin, c'est du football avec les qualifications pour la prochaine Coupe du Monde. Deux matchs hier, deux matchs nuls, 0-0 entre le Sénégal et le Soudan et deux partout entre le Togo et la Mauritanie. Aujourd'hui, deux rencontres sont prévues, Kenya-Gabon et Eswatini-Maurice. Alors que dans le même temps, des arbitres ouest-africains sont en train d'être formés à la VAR, l'assistance vidéo. Cette semaine, match test à l'occasion d'une rencontre entre deux clubs ivoiriens au stade Champrou à Abidjan. Reportage de Youen Gourlet.
Vous venez.
Sur cette action, Stéphane Naï vérifie une potentielle faute. Après avoir zoomé sur les pieds des joueurs, il est formel.
À peine de touche, rien.
Dans le camion vidéo, l'arbitre VAR est accompagné d'un assistant et d'un technicien pour scruter la douzaine d'écrans à sa disposition. L'arbitre zoome, dézoome, revient en arrière, revisionne au ralenti les actions litigieuses grâce au matériel qui avait été utilisé lors de la CAN en Côte d'Ivoire. Les arbitres ont pour mission de vérifier les quatre piliers de la vidéo. S'il y a but, pénalty, carton rouge et si le carton a été donné au bon joueur. Pour Stéphane Naï, ce tout premier match est un moment important pour le foot ivoirien.
Ça apporte un souffle nouveau à l'arbitrage ivoirien parce que ça nous aide dans les prises de décision. C'est sûr que ça va clairement impacter le championnat.
Sur le terrain, le Stella Club d'Adjamé, club de Ligue 1, et la Estanda, club de Ligue 2, s'affrontent en amical. Si durant la première période, Stéphane Naï aura eu peu d'interventions à réaliser, la deuxième période sera riche en rebondissements, quelques litiges, un pénalty obtenu par le Stella Club d'Adjamé grâce à la VAR. Abou Koulibaly, l'arbitre de la rencontre, a apprécié l'aide de la vidéo.
Aujourd'hui, c'est un outil qui arrive chez nous. On ne peut que l'accueillir avec vraiment beaucoup de joie. On espère que ça va diminuer au maximum les contestations.
Après la formation de 30 arbitres et 3 techniciens en début d'année, puis cette expérimentation grandeur nature, la FIFA qui supervisait la rencontre mais qui n'a pas souhaité s'exprimer, doit maintenant valider ou non la technologie pour le championnat ivoirien. Une validation espérée ces prochaines semaines par le corps arbitral. Youen Gourlet, Abidjan, RFI.
À Abidjan, Côte d'Ivoire, où il est maintenant 6h44. Et vous êtes avec Julien Coquelroem pour la suite des RFI Matin.